Chapitre 13. Haute chère. Zaïda et les deux régentes des vents sortirent de chez Elaine avec grâce et dignité, mais sans plus de cérémonie que lors de leur irruption. En guise de revoir, elles souhaitèrent que la lumière brille sur la fille héritière et la protège. Quasiment une sortie bâclée pour de telles amatrices de protocole. En règle générale, avec les Atta Nyeré, on en avait pour une éternité de Salamalek. Elaine trouva vite l'explication de cette hâte. Résolue à être la prochaine maîtresse des navires, Zaïda avait une rivale au moins, qu'elle devait battre de vitesse. Si elle accédait au trône, où la lumière seule savait comment le peuple de la mer appelait ça, ce serait peut-être une bonne chose pour Andorre. Marchée ou pas, elle n'oublierait pas que le royaume l'avait aidée, et ce serait positif. À l'inverse, si elle échouait, sa rivale aussi saurait à qui le royaume avait accordé son soutien. Beaucoup de « si » et de « peut-être » tout ça. Pour l'instant, il y avait d'autres problèmes. « Je n'encourage personne à maltraiter un émissaire, » dit Elaine quand la porte se fut refermée sur les trois femmes. « Mais j'entends, à l'avenir, qu'on respecte mon intimité. Aucun ambassadeur, même des Atta Nyeré, ne devrait être autorisé à entrer chez moi comme dans un moulin. C'est compris ?»
Visage de marbre, Rasoria acquiesça. Puis elle rosit, trahissant sa honte d'avoir laissé passer si facilement les trois intruses. Dans le lien, Elaine sentit un tel embarras que ses propres joues se colorèrent. Birgit elle-même n'en menait pas large.
« Vous n'avez rien à vous reprocher toutes les deux, mais que ça ne se reproduise pas !»
Misère, que signifiaient ces propos imbéciles ?«
Bien, nous n'en reparlerons plus. Affaire classée !»
Que la lumière brûle Birgit et ce lien de malheur. Rasoria et la championne auraient dû faire barrage à Zaïda, ça tombait sous le sens. Mais ajouter l'humiliation à la migraine revenait à verser du sel sur une plaie. Rien de plaisant quand on sentait la douleur de la blessée. Et Avienda n'aurait pas dû afficher ce sourire douceâtre. Comment avait-elle appris pour l'effet miroir du lien? La lumière seule le savait. En tout cas, ça l'amusait infiniment. Le sens de l'humour coupant des aïels, sûrement.
« Un jour ou l'autre, » dit Avienda, hilar, « vous vous ferez perdre la boule l'une à l'autre. Mais cette blague, tu l'as déjà faite à Elaine, Birgit Traillion. »
La championne foudroya l'aïel du regard. Dans le lien, l'inquiétude balaya l'embarras. Puis l'archère afficha un air si innocent qu'on eût dit que ses yeux allaient jaillir de leurs orbites. Elaine décida de ne pas chercher à comprendre. Selon Ligny, lorsqu'on posait des questions, ça obligeait à écouter les réponses, et on n'avait pas toujours envie de les entendre. Précisément, elle n'en avait aucune envie, alors que Rasoria, tout oui, feignait de contempler le sol, tandis que les gardes royales, dans l'antichambre, faisaient semblant de ne pas écouter. Avant de la perdre totalement, Elaine n'avait jamais mesuré la valeur de l'intimité. Totalement? Pas tout à fait, quand même.
« Je retourne dans mon bain, »
annonça-t-elle. Par le sang et les cendres, que s'était-il donc passé avec Birgit qui ait pu lui faire perdre la boule? Pour qu'elle n'en ait aucune idée, ça ne pouvait pas être très important. Hélas, l'eau du bain était froide. Tiédasse, au mieux. Bref, rien dans quoi elle eut envie de se plonger. Se savonner encore un peu aurait été merveilleux, mais pas s'il fallait attendre qu'on vide les baignoires puis qu'on rapporte de l'eau chaude. À cette heure, tout le palais devait savoir qu'elle était de retour. La première servante et le premier clerc attendant avec impatience de lui faire leur rapport quotidien. Enfin, quotidien quand elle était en ville. Et là, elle avait été absente un jour. Quand on ambitionnait de gouverner un pays, le devoir passait avant le plaisir. Et c'était deux fois plus vrai lorsqu'on entendait conquérir un trône. Soulagée de ne plus devoir s'immerger, Avienda retira la serviette autour de sa tête et libéra ses cheveux. Commençant à retirer sa robe de chambre, elle fila dans la pièce adjacente et se rhabilla si vite qu'elle avait presque fini lorsque Elaine entra avec son trio de servantes. Presque sans ronchonner, l'aïel laissa Nari s'achever le travail. Sauf quand on en arriva aux bottes, qu'elle tint absolument à lasser elle-même. Pour Elaine, ce ne fut pas si aisé. Sauf en cas d'urgence, Essandé se sentait rabaissée si elle n'avait pas son mot à dire sur les choix de sa maîtresse. Avec les dames de compagnie, il fallait préserver un équilibre fort compliqué. Immanquablement, une servante en savait plus long, y compris sur les secrets qu'on aurait voulu, et elle vous voyait dans vos pires moments, ronchonne, épuisée, pleurant dans votre oreiller de rage ou de frustration. Pour que ce soit tenable, le respect devait être réciproque. Pour cette raison, Avienda, assise sur un petit banc rembourré, autorisa Naris à lui peigner longuement les cheveux, le temps qu'Elaine puisse s'accorder avec Essandé sur une fine robe de laine grise, bordée de renards noirs au col montant et aux poignets brodés de vert. Seule, la fille héritière n'aurait eu aucun mal à se décider. Là, elle avait dû refuser plusieurs modèles de soie surchargés de perles, de saphirs ou de rubis et lourdement brodés. Couronnement ou pas, la vieille gouvernante tenait chaque jour à vêtir sa maîtresse comme une reine attendue à une audience publique. Quelque temps auparavant, ça s'était révélé judicieux, puisque des délégations de marchands venaient sans cesse présenter des pétitions ou saluer la future reine. Dans le lot, il y avait pas mal d'étrangers désireux que les troubles dont souffrait Andorre n'aient pas de répercussions sur leurs affaires. Le dicton affirmant que celle qui tenait Kemlin tenait le royaume n'avait jamais été vrai. Aux yeux des marchands, la présence de l'armée d'Arimila devant les portes réduisait les chances de succès d'Elaine. Habitué à compter, il recensait sans peine les maisons qui soutenaient l'une et l'autre candidate. Aujourd'hui, même les marchands andoriens évitaient le palais, et autant que possible, la cité intérieure, histoire qu'on ne les soupçonne pas d'être allés voir Elaine. Arrivant dans des coches anonymes, les banquiers se dissimulaient dans les ombres de leurs capuches. Personne ne voulait de mal à Elaine, elle en avait conscience, et nul ne cherchait à l'offenser ou à éveiller son courroux. Mais les gens évitaient aussi de s'attirer les foudres d'Arimilla. Cela dit, les banquiers venaient toujours, et jusque-là, à la connaissance d'Elaine, aucune délégation n'avait pétitionné auprès d'Arimilla. Si ça arrivait, ce serait pour elle le début de la fin. Avec l'aide de Stéphanie, une attention des Sandé, la fille héritière mit une éternité à se harnacher. Peu habituée à l'exercice et tremblant de peur sous l'œil de la vieille gouvernante, la pauvre fille haleta tout le temps comme un soufflet de forge. À l'évidence, commettre une bévue devant Essandé l'inquiétait plus que les réactions d'une future reine. Sous cette pression, elle se montra plus pataude que nature, tenta de compenser avec une minutie exagérée et réussit l'exploit de traîner davantage qu'Essandé dans ses pires moments. Après une éternité d'impatience, Elaine s'assit enfin face à Avienda et laissa Essandé s'attaquer à ses boucles avec un peigne en ivoire. Un travail de précision qu'elle n'aurait pour rien au monde confié à ses assistantes. Enfiler une robe ou la boutonner, pourquoi pas, mais risquer d'emmêler les cheveux d'une souveraine. Avant le 20e coup de peigne, cependant, Birgit passa la tête dans la pièce. Entendant Essandé siffler entre ses dents, Elaine imagina sans peine la grimace qu'elle faisait dans son dos. Pendant le bain, elle tolérait la présence de la championne, mais durant le cérémonial d'habillage. Bizarrement, Birgit encaissa la désapprobation de la vieille gouvernante sans tenter de la gratifier d'un regard apaisant. En règle générale, elle s'interdisait de provoquer Essandé, mais là...
Elaine, Dayeline est de retour. Avec de la compagnie, les hautes chères des maisons Mantear, Ivin, Gilliard et Nortan.
Dans le lien, Elaine capta un mélange de perplexité et de contrariété. Migraine commune ou non, Elaine aurait pu en sauter de joie. Sans le peigne Essandé enfoncé dans les cheveux, elle l'aurait probablement fait. Quatre maisons. Jamais elle n'aurait cru que Dayeline réussirait ça. Espérée, oui, mais pas attendue. Surtout en une semaine. En fait, elle avait parié que Dayeline reviendrait bredouille. Quatre, ça la mettait à égalité avec Arimilla. Se trouver au niveau de cette idiote avait quelque chose d'humiliant, mais ça valait mieux qu'être à la traîne. Mantear, Ivin, Gilliard et Nortan. Et Kandraed, la cinquième maison que Dayeline devait contacter. Non, elle venait de gagner quatre soutiens. Elle ne pleurerait pas sur celui qui manquait.
« Fais-les patienter dans le grand salon le temps que je sois prête, Birgit. »
Avec Zaïda, le petit salon avait suffi, en espérant que la maîtresse des vagues n'en aurait pas pris outrage. Mais pour des hautes chères, il fallait mieux que ça.
« Et demande à la première servante de prévoir des appartements pour nos visiteurs. »
« Des appartements, oui. Lumière. Pour ça, il faudrait expulser les Hata Admiré. Tant qu'elle serait là, tous les lits qui n'étaient pas partagés par deux personnes devaient en accueillir trois. »
Et Sandé, la robe de soie verte ornée de saphirs. Et des saphirs aussi dans mes cheveux, les plus gros.
Birgit se retira, toujours perplexe et troublée. Pourquoi? Elle ne pensait quand même pas qu'elle aurait dû laisser attendre Dayeline à cause de Zaïda. Misère. Voilà qu'elle était perplexe parce que sa championne l'était. Si ça continuait, elle finirait par avoir toutes les deux le tournis. Alors que la porte se refermait, Essandé approcha d'une armoire, un sourire triomphant sur les lèvres. Quand elle jeta un coup d'œil à Avienda, qui venait d'en finir avec Naris et son peigne et noua une écharpe grise autour de ses cheveux, Elaine sourit aussi. Il allait falloir faire quelque chose pour que ça bouge un peu.
« Avienda, tu devrais peut-être porter de la soie et mettre des bijoux, encore une fois. »
Un ton gentiment taquin, pour ne pas effaroucher son sujet.
« Dayeline ne se formaliserait pas, bien sûr, mais les autres ne sont pas habitués aux Aiel. Ils pourraient croire que je fréquente une fille d'écurie. »
Une plaisanterie, pour l'essentiel. Sur les vêtements, les deux premières sœurs se houspillaient en permanence. Quant à Dagelin, elle regardait la Yel de travers, quoiqu'elle ait sur le dos. Avec un regard noir pour les multiples armoires, Avienda acquiesça, déroula l'écharpe et la posa près d'elle sur un coussin.
« D'accord, pour en mettre plein la vue à ces hautes chairs. Mais n'espère pas que ce sera permanent. Je te fais une faveur. »
Pour quelqu'un qui faisait une faveur, la Yel manifesta un vif intérêt aux robes qu'Essandé lui proposa. Non sans hésiter, elle opta pour un modèle en velours bleu rayé de vert et choisit un filet en argent pour tenir ses cheveux. La tenue était à elle, faite sur mesure, mais depuis l'arrivée à Kemlin, elle fuyait ses vêtements comme s'ils avaient grouillé d'araignées venimeuses. En lissant les manches, Avienda hésita de nouveau, comme si elle allait changer d'avis, mais elle laissa Naris s'attaquer à une légion de petits boutons nacrés. Décidée à garder son collier d'argent et son bracelet d'ivoire, elle refusa l'émeraude que lui proposa Elaine, et qui aurait pourtant été parfaitement assortie à la robe. Au dernier moment, elle fixa la tortue d'ambre à son épaule.
« Sait-on jamais quand on en aura besoin ?»«
Oui, »
renchérit Elaine.
« Prudence et mère de sûreté. Ces couleurs te vont à merveille. »
C'était vrai, ce qui n'empêcha pas la Yel de s'empourprer. Être complimentée sur ses talents d'archère ou sur sa rapidité à la course ne la dérangeait jamais. Sur sa beauté, en revanche, cette part d'elle-même, elle l'avait toujours ignorée, en tout cas jusqu'à ces derniers temps. Ignorant que la broche était un angréal, Essandé ne cacha pas sa désapprobation. De l'ambre avec du velours bleu? Ou visait-elle plutôt le couteau à manche en os que la Yel glissa à sa ceinture? Sur ce point, la vieille gouvernante se montra inflexible, forçant Elaine à s'équiper d'une courte dague aux pommeaux et aux fourreaux ornés de saphir, le tout supporté par une ceinture d'or tressé. Pour mériter son aval, tous les éléments d'une tenue devaient être assortis. Quand Avienda passa dans l'antichambre, Rassoria sursauta. Jusque-là, les gardes royales avaient toujours vu l'ami d'Elaine dans une tenue de son peuple. Hautement susceptible, la Yel réagit comme si ses femmes avaient éclaté de rire. Alors qu'elle posait la main sur son couteau, son attention fut heureusement attirée par le plateau couvert d'un chiffon posé sur la longue table plaquée contre un mur. Le déjeuner d'Elaine, apporté pendant qu'elle s'habillait. Après avoir retiré le chiffon, Avienda tenta de titiller l'appétit de sa première sœur. Les fines tranches de porc et la purée semblaient délicieuses, s'extasia-t-elle. Et la compote de pruneaux promettait monts et merveilles. Rassoria rappela qu'un bon feu brûlait dans le petit salon et qu'elle serait ravie d'y porter le plateau pour que Dame Elaine s'en régale. Autour de la future mère, tout le monde l'encourageait à « bien manger », même si chacun avait une définition différente de cette notion. Mais ça tournait au ridicule. Le plateau était là depuis un moment. La purée, presque dure, aurait adhéré à l'assiette si on l'avait renversée. Les hautes chairs attendaient Elaine, depuis trop longtemps à son goût. Elle le fit remarquer, puis proposa aux deux femmes de manger, si elles en avaient envie. Une proposition qui pouvait bien devenir un ordre à son ton. En frémissant, Avienda laissa retomber le chiffon, et Rassoria n'insista pas non plus. Jusqu'au grand salon, il suffisait de faire quelques pas dans le couloir glacial. Rien n'y bougeait, à part les tapisseries murales agitées par les courants d'air. Une absence de menace qui n'empêcha pas les gardes royales de former un cercle autour d'Elaine et Avienda. Comme si un trolloque pouvait surgir de chaque trou de souris, elles avancèrent en sondant les alentours. Par miracle, Elaine réussit à convaincre Rassoria de ne pas fouiller le grand salon avant qu'elle y entre. Si les gardes royales servaient loyalement la fille héritière, elles avaient aussi mission de la conserver en vie. Sur ce point, elle se montrait aussi têtue que Birgit, lorsqu'il s'agissait de décider si elle était la championne, le capitaine général ou une simple sœur aînée. Après l'incident avec Zaïda, Rassoria aurait sûrement exigé que les dames et les seigneurs qui attendaient Elaine lui remettent leurs armes. Avoir risqué d'ingérer cette fichue purée n'avait pas dû améliorer son humeur. Après une brève polémique, Elaine et Avienda entrèrent, seules pour une fois. Mais la satisfaction de la fille héritière ne dura pas. Très grand, ce salon aux murs lambrissés et au sol couvert de tapis était conçu pour accueillir des dizaines de personnes. Devant la grande cheminée de marbre blanc veinée de rouge, des fauteuils à haut dossier formaient un fer à cheval. En ce lieu, les dignitaires importants étaient reçus avec plus d'honneur que dans la salle du trône, l'effet de l'intimité. Si les flammes qui crépitaient dans l'âtre n'avaient pas encore eu le temps de réchauffer l'atmosphère, ce ne fut pas à cause du froid qu'Elaine frissonna. À présent, elle comprenait la perplexité de Birgit. Occupée à se réchauffer les mains au-dessus des flammes, Dayeline se retourna. Quelques rides au coin des yeux, ses cheveux blonds striés de gris, cette femme débordante d'énergie n'avait pas pris le temps de se changer. En robe d'équitation, l'ourlet taché témoignant des difficultés du voyage, elle salua Elaine d'une révérence minimale, la tête à peine inclinée et les genoux sommairement pliés. rien d'insultant là-dedans. Comme Zaïda, Dailin avait conscience de sa valeur et de son rang. En guise de bijoux, elle portait une simple broche représentant la chouette et le chêne de Taravine. La haute chair d'une telle maison, selon elle, n'avait besoin de rien d'autre pour imposer le respect. Cela dit, cette femme avait failli mourir pour prouver sa fidélité à la fille héritière.
« Dame Elaine, dit-elle, très protocolaire, « j'ai l'honneur de te présenter le seigneur Perival, haute chair de la maison Mantear. »
Un beau gamin blond en veste bleue toute simple s'écarta du kaléidoscope à quatre tubes qui reposait sur un piédestal doré plus grand que lui. À la main, il tenait un gobelet d'argent, pas rempli de vin, espéra Elaine, ou alors d'un cru largement coupé d'eau. Sur une des tables, des gobelets et une carafe attendaient, à côté de l'inévitable bouilloire remplie d'eau chaude teintée.
« Ravi de vous rencontrer, dame Elaine !»
dit Perival d'une voix haut perchée. Malgré ses joues roses, il se fendit d'une révérence acceptable. N'était quelque difficulté à gérer l'épée qu'il portait à la hanche. Une arme trop longue pour lui.
« La maison Mantear soutient la maison Trakand !»
annonça-t-il. Toujours stupéfié, Elaine répondit d'une révérence distraite.
« Dame Kathleen !»
continua Dailin.
« Haute chair de la maison Aevin !»
« Elaine ?»
souffla une jeune femme aux yeux noirs, debout à côté de Dailin. Tenant sa jupe d'équitation verte, elle esquissa une révérence, très raide, comme si elle voulait imiter Dailin. Mais peut-être entendait-elle surtout ne pas se cogner le menton à la broche émaillée qui fermait le col montant de sa robe. Un bijou qui représentait l'ours bleu d'Aevin. Sur le filet d'argent qui tenait ses cheveux, le même symbole figurait, et on le retrouvait sur sa chevalière. Une jeune femme peut-être un peu trop fière de sa maison, mais si hautaine qu'elle fût, à voir ses joues rondes, elle avait plutôt tout d'une jeune fille.
« La maison Aevin soutient la maison Trakand, sinon je ne serais pas ici. »
Dailin fit la moue, et darda sur l'insolente un regard noir qu'elle ne parut pas remarquer.
« Le seigneur Brynlet, haute chair de la maison Gilliard. »
Un autre gamin, celui-là à la tignasse noire bouclée. En veste verte, des fils d'or sur les manches, il posa hâtivement son gobelet, comme s'il était gêné qu'on le surprenne avec. Ses yeux bleus trop grands pour son visage, il faillit trébucher sur son épée quand il salua Elaine.
« Dame Elaine, c'est avec enthousiasme que je claironne le soutien de la maison Gilliard à la maison Trakand. »
Au milieu de la tirade, la voix du gamin passa du haut perché au grave, et il s'empourpra plus encore que Perival.
« Enfin, le seigneur Conneil, haute chair de la maison Nortan. »
Grand et mince, sa veste trop courte pour cacher ses poignets osseux, Conneil Nortan sourit, et ses yeux marrons pétillèrent de malice au-dessus de son nez crochu et de ses lèvres fines.
« Pour l'ordre des présentations, dit-il, nous avons tiré à la courte paille, et j'ai perdu. La maison Nortan soutient la maison Trakand. Pas question de laisser monter sur le trône une gourde comme Aramilla. »
Pas gêné par son épée, Conneil était majeur, à la différence des trois autres. Mais s'il avait dépassé 16 ans de plus de 3 mois, Elaine voulait bien manger ses bottes à revers et ses éperons d'argent. L'âge de ses hautes chairs n'avait rien d'une surprise, mais on aurait attendu que Conneil ait à ses côtés un conseiller blanchi sous le harnais et que les trois autres jeunes gens soient accompagnés de leur tuteur. Pourtant, à part Birgit, dos à la fenêtre, les bras croisés, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Bien éclairée par le soleil de midi, la championne évoquait une statue à la gloire du mécontentement.
« La maison Trakand vous souhaite à tous la bienvenue, »
dit Elaine.
« Et moi aussi. »
Non sans mal, elle réussit à cacher sa surprise.
« Je n'oublierai pas votre geste, et ma maison non plus. »
Comme si elle avait entendu de la consternation dans le ton de la fille héritière, Kathleen pinça les lèvres.
« J'ai passé l'âge d'avoir un tuteur, Elaine, et tu devrais le savoir. Lors de la fête des Lumières, mon oncle, le seigneur Arondor, m'a jugée aussi prête que je le serai jamais, et il m'a émancipée avec 1 an d'avance, pour s'adonner à la chasse tant qu'il le peut encore, à mon avis. Il adore ça, et il ne rajeunit pas. »
Une fois encore, Kathleen feignit de ne pas voir le regard noir de Dailin, qui avait à peu près le même âge qu'Arondor Aevin.
« Je n'ai pas de tuteur non plus !»
fit Brynlet, sa voix presque aussi haut perchée que celle de Kathleen. Dailin l'encouragea d'un sourire et lui passa une main dans les cheveux pour les lisser. Hélas, ils lui retombèrent sur le front.
« Maeve chevauchait seule, » expliqua Dailin, « comme à son habitude, quand son ongre a trébuché à cause d'un trou de taupe. Lorsqu'on l'a retrouvé, il était trop tard. Il y a eu de vifs débats pour choisir son remplaçant.
« 3 mois de palabres, »
marmonna Brynlet. Un moment, il sembla plus jeune encore que Perival, Un gosse perdu à qui personne ne voulait montrer le chemin.
« Je ne suis pas censé dire ça, mais devant vous, je peux me lâcher. Bab Elaine, vous serez couronnée !»
Dagelin posa une main sur l'épaule de Perival, qui se redressa de toute sa hauteur, encore inférieure à celle de la noble dame.
« Le seigneur Willin aurait volontiers accompagné le seigneur Perival, mais le grand âge l'a contraint à s'aliter. Le temps a eu raison de lui, comme il triomphera de nous tous. »
Dagelin foudroya Catalin du regard, mais celle-ci dévisageait Birgit, l'air pensive.
« Willin m'a chargé de te dire, Elaine, qu'il t'envoie ses vœux de succès et un représentant qu'il considère comme son fils. »«
Oncle Willin m'a chargé de défendre l'honneur de la maison Manteard et celui d'Andorre !»
déclara Perival avec le sérieux d'un enfant qui joue à l'homme.
« J'essaierai, Elaine, sur ma vie. Je suis sûr que tu réussiras !»
répondit la fille héritière avec un peu de chaleur dans la voix. Elle aurait voulu congédier ses gens et poser quelques questions pointues à Dailin, mais il était trop tôt pour ça. Si jeune qu'il soit, ces gamins étaient les hautes chairs de maisons puissantes. Avant qu'ils aillent se reposer puis se changer, elle devait leur offrir des rafraîchissements et leur faire un minimum de conversation.
« Elle est vraiment le capitaine général de la garde royale ?»
demanda Catalin, alors que Birgit tendait à Elaine une tasse de porcelaine bleue remplie d'une eau brunâtre. La jeune insolente avait parlé comme si la championne n'était pas là. Avant de s'éloigner, l'archère lui coula un regard noir. Mais Catalin semblait experte dans l'art de ne pas voir ce qui la dérangeait. De la tasse qu'elle tenait montait une bonne odeur d'épices. Dans la décoction d'Elaine, on n'avait même pas ajouté une cuillerée de miel.
« Oui, et ma championne aussi !»
répondit la fille héritière. Poliment, elle, aussi prête qu'elle le sera jamais. Cette teigne prenait probablement ça pour un compliment. Pour sa grossièreté, elle aurait mérité la badine. Mais on ne pouvait pas châtier une haute chair, surtout quand on avait besoin de son soutien. Catalin baissa les yeux sur les mains d'Elaine. Découvrir la bague au serpent ne l'impressionna pas le moins du monde.
« Les sœurs t'ont donné ça? Je n'ai pas entendu dire que tu avais reçu le châle. À vrai dire, je croyais que la Tour Blanche t'avait renvoyé chez toi, après la mort de ta mère ou à cause des troubles à Tarvalonne, dont tout le monde a entendu parler. Des Aes Sedai qui se crêpent le chignon comme des paysannes. Mais comment peut-elle être une championne, ou une militaire, sans avoir d'épée? Quoi qu'il en soit, ma tante Evel dit que les femmes doivent laisser les armes aux hommes. Quand on a un maréchal ferrant, on ne s'occupe pas des sabots de son cheval. Même chose pour le grain. On ne moue pas lorsqu'on dispose d'un meunier. »
Des citations de Dame Evel, probablement. Ignorant ces insultes joliment emballées, Elaine resta de marbre.
« L'épée d'un capitaine général, c'est son armée, Catalin. Gareth Bryne en personne dit qu'un chef qui utilise une autre arme fait mal son travail. »
Ce nom n'impressionna pas plus Catalin. Pourtant, même les enfants des mineurs dans les monts de la brume connaissaient ce héros. Avienda approcha, souriant comme si elle jubilait à l'idée de converser avec la gamine.
« Les épées ne servent à rien, » susurra-t-elle.
« Avienda, susurrée ?» Elaine ne l'aurait jamais cru capable de simuler ainsi. En revanche, elle tenait un gobelet d'argent. Qu'elle continue à boire de l'eau chaude par amour fraternel aurait été trop demandé.
« La lance, voilà ce qu'il faut manier. » ainsi que le couteau et l'arc. Avec le sien, Birgit Traelion pourrait énucléer à 200 pas de distance. 300 même.
« La lance ?»
couina Catalin. «
Et mes nucléés ?»
ajouta-t-elle, incrédule.
« Je ne t'ai pas encore présenté ma sœur, » dit Elaine. « Avienda, voici Dame Catalin. Catalin, voici Avienda, du clan des Neuf Vallées des Aielta Ardad. »
L'étiquette aurait voulu qu'Elaine procède dans le sens inverse, mais Avienda était sa sœur. Et même une haute chair devait en rabattre quand on la présentait à une parente de la fille héritière.
« Avienda étudie pour devenir une matriarche. »
La jeune insolente en resta bouche bée, comme si elle entendait gober des mouches à la manière d'un poisson. Un merveilleux spectacle. Au-dessus de son gobelet, Avienda sourit à sa première sœur. Elaine ne broncha pas, mais elle n'en pensait pas moins. Les trois autres genoux furent plus faciles à gérer. Impressionnés d'être au palais, Perival et Brinlette avaient du mal à aligner deux mots, sauf quand on les leur arrachait de force. Convaincu qu'Elaine plaisantait en présentant Avienda comme une aïelle, Conail éclata de rire et faillit recevoir dans le torse le couteau de la jeune femme. Par bonheur, il pensa là aussi qu'elle lui faisait une blague. Avienda adopta alors l'attitude glaciale qui, dans sa tenue habituelle, l'aurait fait prendre pour une matriarche confirmée. En robe de velours, même la main sur le manche de son couteau, elle faisait plus grande dame que nature. Le seigneur Brinlet, remarqua Elaine, ne cessait de couler des regards en biais à Birgit. Après un moment, la fille héritière comprit qu'il admirait sa démarche chaloupée, la faute à ses maudites bottes et les ondulations de ses hanches. Elaine se contenta de soupirer. Coup de chance, Birgit ne s'était aperçue de rien. Même si elle avait voulu cacher son indignation, le lien aurait averti la fille héritière. L'archère aimait que les hommes la regardent, les hommes adultes. Si elle avait flanqué une fessée à Brinlette, ça n'aurait guère servi la cause de la maison Tracande. Les quatre jeunes gens voulaient à tout prix savoir si Réan Corly était une Aes Sedai. Aucun n'avait jamais vu une sœur, mais selon eux, ce devait être le cas, puisque Réan pouvait ouvrir un portail et transporter en un éclair des cavaliers à des centaines de lieues de leur point de départ. Elaine saisit cette occasion pour s'entraîner à éluder sans mentir, une acrobatie grandement aidée par la bague au serpent qu'elle arborait à la main gauche. Un mensonge pur jus aurait faussé ses rapports avec les quatre chers. Mais il ne fallait pas espérer, sans enjoliver un peu la vérité, que des rumeurs sur le soutien des Aes Sedai à la maison Tracande arriveraient jusqu'aux oreilles d'Armilla. Bien entendu, les quatre genoux s'empressèrent de mentionner le nombre de soldats qu'ils avaient amenés. Un peu plus de 300 au total, avec une bonne moitié d'arbalétriers ou de halbardiers qui seraient très précieux sur les remparts. Des forces si considérables prêtes au départ au moment de la visite de Dailin? En des temps troublés, aucune maison n'aurait voulu laisser sa haute chair sans protection. Dans les querelles de succession, les enlèvements n'étaient pas rares. En tout cas, Conail l'assura dans un éclat de rire, à croire qu'il trouvait tout amusant. Brinlette approuva du chef, puis se passa une main dans les cheveux. Perplexe, Elaine se demanda combien de ses innombrables tantes, oncles et cousins savaient qu'il était en vadrouille, et quelle serait leur réaction quand il l'apprendrait.
« Si Dailin avait bien voulu attendre quelques jours, » dit Cataline, « j'aurais pu amener plus de 1200 hommes. »
La troisième fois, en trois phrases, qu'elle se vantait d'avoir avec elle le plus gros contingent, et de loin.
« J'ai mis à contribution toutes les maisons vassales, Daivin, »
précisa la petite teigne.
« Et moi, toutes celles qui suivent Nortan, »
renchérit Conail, en souriant comme de juste.
« Ma maison ne peut pas mobiliser autant d'hommes qu'Aivin, Tracande ou Manteard, mais tous ceux qui répondront à l'appel des aigles chevaucheront pour Kemlin. »
« En hiver ?»
fit Périval.
« Ils ne chevaucheront pas bien vite. »
Miracle, il avait parlé sans qu'on s'adresse d'abord à lui.
« Quoi que nous ayons à faire, il faudra nous contenter des soldats qui sont ici. »
Conail s'esclaffa, flanqua une tape sur l'épaule de Périval et lui conseilla de ne pas s'inquiéter, parce que tous les hommes dignes de ce nom étaient en route pour Kemlin afin de soutenir Dame Elaine. La fille héritière étudia plus longuement Périval. Quand leurs regards se croisèrent, il ne baissa pas immédiatement ses beaux yeux bleus. Un gamin, peut-être, mais qui comprenait dans quoi il s'était embarqué mieux que Conail ou Cataline, laquelle réussit à placer une quatrième fois le nombre de soldats qui l'accompagnaient, puis à rappeler le potentiel d'Aivin, comme si quiconque ici, à part Avienda, pouvait ignorer combien d'hommes chaque maison était en mesure de mobiliser. Des soldats entraînés, certes, mais aussi des fermiers qui avaient manié une hallebarde ou une pique pendant une quelconque guerre et des villageois obligés de se laisser recruter. Le seigneur Willin avait bien préparé son jeune successeur. À présent, c'était à Elaine de faire en sorte que ses efforts n'aient pas été vains. L'heure des embrassades arriva enfin. Le pauvre Brinlette rougit jusqu'à la racine des cheveux. Périval battit des cils quand Elaine se pencha vers lui et Conail jura qu'il ne se laverait plus jamais la joue. Comme si elle prenait soudain conscience qu'elle avait de son plein gré concédé à Elaine un statut supérieur au sien, Cataline se montra inhabituellement timide. Mais elle se reprit vite, affichant de nouveau son arrogance. Dès que les quatre genoux eurent été confiés aux serviteurs qui les conduiraient dans leurs appartements, si la première servante avait eu le temps d'organiser ça, Dailin remplit son gobelet et se laissa tomber dans un fauteuil.
« Si je peux m'envoyer des fleurs, c'est la semaine la plus productive de ma vie. Fine mouche, j'ai éliminé d'entrée la maison Kandraed. Danin, capable de prendre une décision ? Si c'était vrai, ça se saurait. Pour m'en assurer, il a fallu une heure, bien que j'ai dû en passer trois avec elle pour ne pas l'offenser. Le matin, elle doit rester couchée jusqu'à midi, faute de savoir de quel côté du lit se lever. Avec les autres maisons, ce fut très facile. Aucun esprit sensé ne veut voir Arimilla sur le trône. »
Un moment, Dailin sonda le fond de son gobelet, puis elle tourna la tête vers Elaine. Quelle que soit son opinion, elle n'hésitait pas à la donner, quoique la fille héritière risque d'en penser. Une fois encore, elle se jeta à l'eau.
Faire passer les femmes de la famille pour des Aes Sedai était peut-être une erreur, même si nous ne l'avons pas clamé sur tous les toits. Pour elle, c'est trop de pression, et ça nous met en danger. Ce matin, sans raison apparente, maîtresse Corly, les yeux ronds, couinait comme une péquenaude qui débarque en ville. Elle a failli ne pas pouvoir ouvrir le portail qui nous a amenés ici. Tu imagines, Elaine? Toute une colonne prête à franchir une ouverture qui ne se serait jamais matérialisée. Sans mentionner que j'aurais dû voyager des jours et des jours en compagnie de Cataline. Quelle odieuse gamine! Le fond est bon, il faudrait juste que quelqu'un la prenne en main pendant quelques années. Mais en matière de langue de vipère, c'est une Aivin au carré.
Elaine pinça les lèvres. Oui, les Aivin pouvaient être très blessants. Toute la famille adorait ça. La fille héritière était lasse d'expliquer le phénomène qui, en ce jour, pouvait effrayer toute femme capable de canaliser. Et elle en avait assez qu'on lui rappelle ce qu'elle s'efforçait d'oublier. Le maudit phare brillait toujours à l'ouest, depuis trop longtemps, et bien trop vivement. Depuis des heures, l'intensité restait stable. Quiconque canalisait pendant si longtemps sans prendre de pause aurait déjà dû tomber de fatigue. Et ce fichu Randaltor était au cœur du phénomène. Ça, elle l'aurait juré. Il était vivant, certes, mais pour l'heure, Elaine avait envie de le gifler, à cause de ce qu'il lui infligeait. Bon, ses joues étaient hors de portée, mais... Birgit posa son gobelet sur une table avec tant de vigueur que du vin gicla partout. Pour nettoyer les manches de sa veste, les blanchisseuses devraient suer sang et eau, et il faudrait des heures à une servante pour rendre son poli à la table.
« Des gamins !» s'écria la championne. « Des gens mourront à cause de leurs décisions, et ce ne sont que des maudits gosses. Connell est le pire de tous. Tu l'as entendu, Dailin ? Il veut défier l'homme liche d'Arimilla comme ce fichu Arthur El de Faucon. Mais Arthur n'a jamais défié le maudit liche de personne. Plus jeune que ce seigneur Nortan de malheur, il savait déjà que tout faire dépendre d'un duel et de la folie. Mais Connell croit pouvoir gagner avec son épée le trône que convoite Elaine.
« Birgit Traelion a raison, » déclara Avienda, les mains fermées sur le devant de sa robe.
« Connell Nortan est un crétin.
Mais qui aurait l'idée de danser avec les lances en compagnie de ces gosses ? Qui peut envisager de leur donner des soldats à commander ?»
Dailin dévisagea Layel et la championne, puis elle choisit de répondre à la première. Si la tenue d'Avienda la déconcertait, elle ne comprenait pas, surtout, pourquoi les deux femmes s'étaient choisies pour première sœur, ni ce qui poussait la fille héritière à être si proche du Nayel, en l'intégrant à leur réunion en plus de tout. Ça, c'était trop pour qu'elle cache ce qu'elle en pensait.
« Je suis devenue haute chère de la maison Taravine à 15 ans, après la mort de mon père dans une escarmouche, le long de la frontière de l'Altara. La même année, mes deux jeunes frères sont morts en combattant des voleurs de bétail venus du Mourandi. Une fois nommé, j'ai écouté mes conseillers, mais c'est moi qui ai indiqué à nos cavaliers où attaquer. Après, les Altariens et les Mourandiens sont allés chercher d'autres terres à piller. Avienda, c'est l'époque qui choisit le moment où les enfants grandissent. À l'heure actuelle, une haute chère trop jeune pour ses responsabilités ne tardera pas à mûrir. »
Dailin se tourna vers Birgit.
« Quant à toi, dame Birgit, ton langage est toujours... coloré. »
Sans demander comment la championne savait sur Arthur El de Faucon des détails que les historiens ignoraient, Dailin la dévisagea longuement.
« Brinlet et Perival m'écouteront. Et Cataline aussi, en fin de compte. Même si je déplore chaque seconde que je devrais passer avec elle. Quant à Connell, est-il le premier jeune homme à se croire invincible et immortel ? Si notre capitaine général ne parvient pas à le mater, je lui suggère de... marcher devant lui. À la façon dont il lorgnait tes hanches, championne, il te suivra où que tu ailles. »
Elaine parvint de justesse à contrôler la fureur qui montait en elle, pas la sienne, bien sûr. Rien à voir avec l'agacement que lui avait inspiré Dailin au début, ou Birgit quand elle avait renversé du vin. Ce qu'elle sentait, c'était la rage de sa championne. Donc, elle n'avait pas vraiment envie de gifler Rand ? Ça, c'était une autre affaire. Ainsi, Connell aussi avait reluqué Birgit ?
Avienda, ces marmots sont les hautes chères de leur maison. Dans leur entourage, personne ne me félicitera si je les traite mal. Leurs soldats sont prêts à mourir pour les protéger. Ils servent Perival, Brinlet, Connell et Cataline, pas Elaine Trakand, parce que ce sont leurs hautes chères.
Pensive, Avienda plia les bras, comme si elle voulait ajuster un châle sur ses épaules, puis elle acquiesça. À contre-cœur, car personne parmi son peuple n'arrivait à de telles dispositions sans des années d'expérience et l'approbation des matriarches. Mais c'était déjà ça.
« Birgit, » reprit Elaine, « tu te chargeras d'eux, le rôle normal d'un capitaine général. Des cheveux blancs ne les rendraient pas nécessairement plus sages, et ils seraient encore plus difficiles à contrôler. Avec des décennies d'expérience, ils auraient des opinions encore plus tranchées, 10 fois plus sûrs de tout savoir bien mieux que toi, ou que moi. »
Elaine avait fait un gros effort pour modérer son ton. Et Birgit lui en sut gré. Sinon, le flot de rage qui se déversait dans le lien n'aurait pas ralenti. Il était toujours là, mais moins tumultueux. Quand elle avait décidé de s'exhiber un peu, Birgit appréciait que les hommes la regardent. En revanche, elle détestait qu'on l'accuse de les aguicher. Par bonheur, elle avait conscience qu'il était dangereux, pour elles deux, de ne pas brider leurs émotions. Sans quitter la championne des yeux, Dailin sirotait son vin. Une poignée de gens seulement savaient la vérité que l'archère s'efforçait de cacher, et la haute chère de la maison Taravine n'était pas du lot. Cela dit, l'héroïne de légende avait été assez imprudente, un mot de trop ici ou là, pour qu'une fine mouche comme Dailin se doute qu'un secret se cachait derrière ses yeux bleus. Si elle le découvrait, ce secret, la lumière seule savait ce qu'elle ferait. Pour l'heure, les deux femmes étaient comme chien et chat, des furies capables de se disputer sur la couleur du ciel. En ce jour, Dayeline sembla penser qu'elle avait gagné.
« Cela dit, »
continua Elaine,
« j'aurais préféré, Dayeline, que tu nous amènes aussi leur conseiller. Ce qui est fait, je sais, mais Brynlette me pose vraiment un problème. Si la maison Gilliard m'accuse d'enlèvement d'enfants, ça n'arrangera pas mes affaires. »
Dayeline eut un geste insouciant.
« Tu connais mal les Gilliard, dirait-on. Concentrés sur leur dispute, ils ne s'apercevront pas de l'absence du gamin avant l'été. Et quand ils s'en aviseront, aucun d'entre eux ne condamnera sa décision. » Parce que ça reviendrait à admettre qu'ils étaient trop occupés à lui trouver un tuteur pour veiller sur lui. Dans le même ordre d'idées, pas un ne reconnaîtra n'avoir pas été consulté avant le départ du gamin. Quoi qu'il arrive, la maison Gilliard soutiendrait Zaïda plutôt qu'à Rémy Lamarne, et elle n'aime pas plus les maisons Arone ou Sarande.
J'espère que tu vois juste, Dayeline, parce que je te charge de traiter avec tout Gilliard indigné qui se présentera au palais. Pendant que tu conseilleras les trois autres, garde un œil sur Conail, afin qu'il ne multiplie pas les âneries.
Malgré sa belle assurance, le premier ordre fit grimacer Dayeline, et le deuxième lui arracha un soupir. Birgit ne rata pas l'occasion de marquer un point.
« Si tu rencontres des difficultés, je te prêterai une paire de bottes et un pantalon. Avec les garçons, ça devrait marcher. »«
Dame Birgit, »
maugréa Dayeline,
« certaines femmes peuvent faire mordre un poisson simplement en pliant le doigt.
D'autres doivent jeter tous leurs appâts dans la mare. »
Avienda trouva la réplique drôle. « Pas Birgit. » puisque la colère recommença à bouillir dans le lien. Un courant d'air frais annonça l'arrivée de Rasoria, qui se mit au garde-à-vous.
« La première servante et le premier clerc sont arrivés, madame. »
Quand elle prit conscience de l'ambiance cordiale qui régnait dans le salon, la garde royale blêmit un peu. Une chèvre aveugle aurait capté qu'il y avait un os. Dayeline comme une chatte dans un poulailler, Birgit la foudroyant du regard, puis faisant subir le même sort à Avienda. Soudain consciente qu'elle était face à Birgit Arc d'Argent, un détail qu'elle perdait trop souvent de vue, Layel baissa les yeux, honteuse comme si elle s'était moquée d'une matriarche. À l'occasion, Elaine regrettait que ses amies ne s'entendent pas entre elles comme elle s'entendait avec Avienda. Quoi qu'il arrive, ou presque, ça finissait en prise de bec. Mais n'était-ce pas ce qu'il fallait attendre de gens tout simplement normaux? La perfection, c'était bon pour les livres et les récits des trouvères.
« Fais-les entrer, Rasoria, et qu'on ne nous dérange pas, sauf si on attaque la ville. Enfin, je veux dire, sauf si c'est important. »
Dans les récits, les femmes qui donnaient des ordres trop dramatiques finissaient toujours par provoquer les catastrophes qu'elles évoquaient. Parfois, quand on lisait entre les lignes, il y avait des leçons à tirer de ces histoires.